Avant de lancer la première phrase de l'émission, avant de lancer l'accroche, comme on dit dans notre jargon, je pensais à une conversation que j'ai eue hier avec un ami qui me disait « Quand tu rencontres quelqu'un et que tu n'arrives pas à l'imaginer quand il était gosse, c'est peut-être mauvais signe. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'un des super pouvoirs de l'invité du jour est précisément d'avoir accès à son enfance. Cet invité écrit aussi bien pour les grands que pour les petits. Elle s'appelle Agnès de Sarthe.
Enfant, je regarde les adultes et je me dis « Oh la vache, qu'est-ce qu'ils ont pris quoi, c'est horrible !» Je les trouve faux, je trouve que leurs voix sont très bizarres. Oh, et puis ils comprennent rien, ils comprennent vraiment rien à la pâte à modeler. Ils sont nuls, alors que la pâte à modeler, c'est tellement important. Et donc à ce moment-là, à cet âge-là, je me dis « Je ne deviendrai jamais comme ça. » Jamais. Alors, bien sûr, je fais semblant de faire tous les trucs que font les adultes, mais je fais semblant.
C'est en adoptant le point de vue de la petite fille qu'elle fut, en retrouvant la justesse de ses sensations et la netteté de ses questions, qu'Agnès de Sarthe a réussi à écrire un beau roman, non seulement sur son histoire familiale, mais aussi sur les guerres d'hier et d'aujourd'hui. L'histoire de deux familles juives venant de Libye du côté paternel et de Russie du côté maternel. Ce roman d'Agnès de Sarthe s'intitule « Qui se ressemble ?» Et ce qui a ouvert l'écriture de ce livre, c'est une chanson et une voix, celle de la diva égyptienne Oum Kalsoum. Il est donc beaucoup question de musique dans ce livre. Dans la conversation qui suit, vous écouterez Jacques Dutronc, Paul Simon, Gustave Flaubert et Harry Styles aussi. Pour Totemic, Agnès de Sarthe m'a donné rendez-vous dans l'un des plus anciens conservatoires de musique de la ville de Paris. C'est le conservatoire Hector Berlioz. L'endroit est dingue, avec des sphinx sculptés de chaque côté des escaliers dans la cour. Agnès de Sarthe a passé des moments heureux ici. Ses enfants y ont appris la musique. Nicolas Desoulières, le directeur, nous accueille sur le perron et nous dit « Ce lieu fut construit pour être un pavillon des plaisirs. »
Totemic, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
Pour moi, un endroit dans une ville où on entre, une cour où on entre et où il y a de la musique qui sort par les fenêtres, c'est, je pense, mon idéal de la civilisation, mon idéal du bonheur. Et ça me paraît, je me dis, ah si, ah oui, si, je crois en l'homme finalement. Ça m'avait quitté, mais là, j'y recrois.
Vous avez toujours joué de la musique ?
Enfant, oui. Adolescente, oui. Et ensuite, quand j'ai eu des enfants, là, je pratiquais plus, mais pas du tout parce que j'avais pas le temps. Mais comme je pratiquais énormément avec eux, ça m'a jamais quitté, puisque je les emmerdais à un degré inimaginable avec la musique. Et donc, j'étais à côté, j'ai dit non, 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 on refait. C'est pas bien, tu vas refaire, et tout, c'était terrible.
Pourquoi ça vous tenait tant à cœur?
Je me suis posé cette question. Pourquoi ça me tenait tant à cœur? Parce que franchement, pour le reste, les devoirs, je regardais jamais le cahier de texte, je savais jamais quand il y avait un contrôle, j'ai jamais... je ne sais pas s'il y avait une mauvaise note, ça passait, enfin, vraiment. Mais la musique, c'était comme quelque chose de sacré. Alors, il y a plusieurs raisons, je crois, qu'il y a le fait que c'est une banalité, mais le fait que ce soit un langage universel, pour quelqu'un qui a vécu dans une atmosphère polyglotte, c'est un soulagement qu'il y ait une langue qu'on n'a pas besoin de traduire et qui est parlée par tout le monde.
Oui, parce que vous venez d'une famille où on parle français, arabe, yiddish, russe.
Oui. Oui, c'est ça.
Et anglais.
Oui, et anglais. Pour pas que les enfants comprennent, on parle en anglais. Oui, donc c'était une sorte de Babel, mais c'était ça quand même. Alors peut-être que la musique apparaissait comme un soulagement, mais pas seulement, je crois que c'est plus profond que ça, plus lointain que ça. Un jour, j'ai demandé à mon frère, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'on a dans cette famille avec la musique? On est cinglés quand même, parce que tout le monde chante, tout le monde, et même mes cousins, même ceux qui n'ont pas pris de cours, ils chantent juste, ils chantent bien. » Et mon frère m'a répondu « Mais c'est parce que... on a un ancêtre, en fait, un des frères de mon père dont je parle dans Qui se ressemble, qui était un garçon qui avait le goût de la musique, qui jouait du piano dans un milieu absolument misérable où on n'avait pas du tout l'idée ni les moyens de faire un truc aussi farfelu. Et que ce garçon est mort quand il était adolescent. Et mon frère m'a dit, Moi, je pense que c'est pour ça, parce qu'on rattrape ce qui s'est perdu à ce moment-là. C'est peut-être vrai.
Dans ce roman, qui s'intitule donc « Qui se ressemble », ça fait partie d'une collection, La Résonante. Et l'idée de la collection, c'est de demander à des auteurs et autrices d'écrire sur la musique, et notamment sur une ou plusieurs chansons. Mais il y en a une que j'aimerais vous faire écouter. Mm-hmm. C'est là qu'on sort les oreillettes.
Je vais entendre quelque chose.
Normalement, si tout se passe bien, vous devriez entendre un truc.
Je lèverai la main.
D'accord.
Je lèverai la main comme à l'audiogramme. C'est drôle de regarder quelqu'un qui écoute, hein. On a une tête spéciale.
Papa Tango Charlie de Mort Schumann fait partie de la bande-son de Qui se ressemble, nouveau roman d'Agnès de Sarthe.
Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu. Hein.
Ici, Papa Tango Charlie, je vous entends très bien. Ici, Papa Tango Charlie, me laissez-vous enfin. Je n'ai plus besoin de vous. Je vole par vent debout. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des.
J'ai ri à cause de l'accent anglais, en fait américain, de Mort Schumann, parce que je le discernais pas quand j'étais enfant. Et peut-être que c'était parce qu'il y avait tellement de gens qui parlaient avec un accent autour de moi. Moi, j'avais l'impression qu'ils parlaient parfaitement français. Et cette chanson, elle est présente dans le livre parce que c'était ma grand-mère non francophone qui la chantait. Elle adorait cette chanson et elle chantait, elle faisait « Baba Charlie, Baba Charlie », ça donnait ça. Mais c'était...
Alors, à la place de Tango Charlie, quoi.
Oui, oui, c'était Baba Charlie, c'était Tango Charlie. Baba Charlie. Mais c'était ça qu'elle, elle entendait. Mais de la même manière que moi, j'entendais, quand j'entendais de la musique égyptienne, ben, je chantais en yaourt de l'arabe et ça devait donner quelque chose de pas bien plus brillant. C'est le principe du yaourt.
Mais ça raconte, c'est la pratique du yaourt par votre grand-mère comme par vous, gamine, ça raconte quand même un certain rapport à la langue.
Oui, en tout cas, une volonté d'appropriation, enfin de se lancer dans le vide de la langue, mais le plein de la phonétique. En fait, on comprend rien, mais on dit tout. Parce qu'on avait aussi, on faisait du yaourt français. Dans le livre, j'en parle aussi. À un moment, je raconte comment on écoute les chansons de Georges Brassens et que on croit qu'on dit les vraies paroles, mais en fait non. Et parfois, ça m'arrive encore d'écouter une chanson de Georges Brassens et d'éclater, de faire ah mais c'est ça les mots. Ah oui, je comprends enfin le découpage parce que j'avais pas vu qu'il y avait un enjambement, donc je l'avais remplacé par autre chose. Et donc voilà, ça on le pense pas, mais le yaourt français existe aussi.
Mais ça veut dire que les mots, c'est comme des tiroirs. Enfin, je veux dire, plutôt des commodes avec 1000 tiroirs.
C'est aussi que le mot, c'est le son et c'est le premier contact qu'on a avec le mot. Quand on est enfant, on est d'abord en contact avec le son avant d'être en contact avec le sens. Et je crois que je suis restée très sensible au son des mots et peut-être un tout petit peu moins au sens. Alors, bon, ne le dites à personne parce que je suis quand même écrivain, mais il y a quelque chose comme ça de cet attachement primordial qui est resté aussi, je crois, parce que j'ai le souvenir d'une déception très lointaine où je me dis, enfant, j'entends que les gens parlent et je me dis, oh là là, quand je vais savoir parler, oh, ça va être extraordinaire tout ce que je vais dire. Et quand j'arrive aux mots et je me dis, ah, c'est que ça. On est obligé d'en utiliser tellement pour dire une sensation. En fait, moi, j'avais l'impression que la moindre sensation, il y aurait un mot pour chaque chose. Pour j'ai faim et en même temps j'ai froid aux mains, par exemple. J'attendais qu'il y ait un mot qui s'appellerait crapic, par exemple, et tout le monde ferait ah crapic, bah tiens, une glace et des boufles.
La chanson qui est au cœur de Qui se ressemble, nouveau roman d'Agnès de Sarthe, s'intitule Enta Umri. Je ne vais pas vous donner le sens de ce titre maintenant. Vous le découvrirez en écoutant la suite. En tout cas, cette chanson, Enta Umri, est interprétée par une diva égyptienne. Non, par la diva égyptienne, Umm Kalsoum. La photo de ses mains et le mouchoir qu'elle tenait pendant ses concerts sont sur la couverture du roman d'Agnès de Sarthe. Extrait de Qui se ressemble. père pose le 33 tours d'Oum Kalsoum sur la platine. Il manie avec adresse le bras où s'insère le diamant. J'admire son doigté. Après les premiers grésillements, nous écoutons attentivement l'introduction à la guitare électrique, suivie par un développement au violon, et dès que la chanteuse entonne les premières paroles, mon frère, ma sœur et moi l'imitons phonétiquement. Je m'étonne de voir mon père ému aux larmes par des mots que je trouve banals, des sentiments que je juge ordinaires, dépourvus de subtilité. Ce texte doit en cacher un autre. C'est l'hypothèse que j'émets sans en être tout à fait consciente vers mes 7 ans. Alors, pour la suite de notre conversation avec Agnès de Sarthe, j'ai dit...
On écoute Oum Kalsoum pour que vous chantiez en phonétique.
Ah, ça, je ne sais pas si je vais le faire.
Allez.
Je suis timide.
On a pris le moment où elle commence à chanter.
Oui, parce que l'intro dure quand même 40 minutes.
Donc, c'est ça.
Oui. C'est incroyable. Amdam, comme elle dit, c'est sec. C'est incroyable. Le rou, par exemple, c'était incroyable ça. Et les chouftou. Ablimenchou, fetaï ben. Voilà, ça donnait ça. Elle lui chauffe tout. Elle lui chauffe tout. Elle lui chauffe tout. Elle lui chauffe tout. On trouvait que ça ressemblait beaucoup à Elle lui chauffe tout. Et donc, pour rigoler, on appelait la chanson, cette chanson Enta Umri, on l'appelait pas Enta Umri, on l'appelait Elle lui chauffe tout. Et je pense que c'était pas un hasard parce que la cuisine et le fait de manger, c'était quelque chose de très important dans ma famille. Il fallait manger, il fallait terminer l'assiette, il fallait faire honneur, il fallait en reprendre et en re-reprendre, même si on n'avait plus faim, même si on n'aimait pas tellement. Et donc, forcément, nous, enfants, c'était pas loin pour nous d'aller de Elle chauffe tout à Elle lui chauffe tout. Et je me souviens de mon imaginaire, je voyais une marmite et une grande cuillère, une grande spatule en bois qui tourne dans la marmite. Et c'était ça pour moi, les images qui correspondaient à cette chanson. Voilà ce que je comprenais, alors que non, ce n'est pas ça. Et là, elle va dire Enta Umri. Mais elle, vraiment, elle vous tue, quoi. Elle tente de mourir 50 fois avant qu'elle dise enfin. Et vous voyez le détail dans lequel ça met les gens. Ça rend les gens fous. Ouais.
C'est un art du suspense.
Ouais.
Et de la dramaturgie.
Complètement.
Enfin, je veux dire, quelle que soit la musique qu'on écoute, il y a toujours ça, de la pop, du classique. On se dit, oh, ça va venir, ça va venir.
Oui, parce qu'en plus, quand c'est particulier, les chansons dont le titre correspond aux premières paroles du refrain, on les attend parce que c'est celles qu'on connaît le mieux. Et comme dans cette chanson, sur les mêmes notes, on a soit Elle chauffe tout ou soit Enta Umri, on croit qu'elle va le dire, elle va le dire. Non, elle le dit pas. Et parfois, elle revient en arrière, elle s'arrête. Et allez, on refait l'intro. Oh non, oh, c'est pas vrai. Elle, voilà, elle va nous tuer. Et elle manipule.
Elle les chauffe.
Elle les chauffe. Ah oui, elle les chauffe tout. Oui, exactement. Elle les chauffe à mort. C'est un peu.
Ça veut dire quoi, Enta Umri?
Tuer ma vie, tuer. Alors mon père m'avait dit. Alors non, c'est plus compliqué que ça parce que c'est pas vie, c'est l'entièreté de mon existence. Mais alors vous voyez, une fois qu'on dit en français, tuer l'entièreté de mon existence. Ah ouais, c'est dingue, ça me fait un effet incroyable. Alors bon, non, parce que ça marche pas comme ça la traduction. Et je le sais bien puisque je la pratique. C'est-à-dire qu'il faut trouver des détours pour restituer l'émotion créée par des mots dans une langue où le fonctionnement entre les mots et l'émotion n'est pas le même. Et cet échec du départ, cette déception, je crois, a été chez moi un moteur incroyable pour devenir traductrice. Je me suis dit, on peut peut-être faire mieux que ça, non? Voilà.
Aperture, c'est le titre de ce morceau. Je pense qu'on peut le traduire par ouverture. Voici donc Harry Styles.
Hey.
Qui se ressemble est le titre du nouveau roman d'Agnès de Sarthe. Le livre commence avec son père, un juif algérien qui débarque à Besançon en 1956. Agnès de Sarthe remonte le cours d'une histoire familiale qui passe par la Libye, l'Algérie et la Russie du côté maternel. La voix de la diva égyptienne Oum Kalsoum est ce qui la guide pour écrire. Parce que l'un des talents d'Agnès de Sarthe est de trouver les mots pour le son. En regardant et écoutant une vidéo d'Oum Kalsoum, elle écrit dans Qui se ressemble. On croirait que ses pieds, ses jambes, masquées par la longue jupe qui descend jusqu'au sol, sont en plomb. Non, en fonte. Si pendant qu'elle chante, on décidait de la déplacer, il faudrait creuser autour d'elle, démonter la scène, explorer la cave, descendre à plusieurs mètres sous terre et creuser encore pour accéder à l'endroit où ses racines se sont plantées à l'instant où la musique a commencé. Elle peut tenir ainsi des heures, sans remuer les pieds, sans remuer les jambes, comme si elle n'avait pas de corps, ou comme si son corps était une bâtisse, un phare. Et chanter, chanter ainsi sans s'arrêter, la voix toujours égale, toujours pleine, large et dense, agile pourtant, souple, sévère, coupante, tantôt serpe, tantôt hache, tantôt miel, torrent, lac, huile, mercure, sang.
Ça, par exemple, c'est presque un exercice qu'on fait faire aux gens qui apprennent à dessiner. J'ai une amie qui est prof de dessin et elle me dit, je mets une carafe et devant je mets un verre. Et très souvent, les gens qui commencent à dessiner dessinent une carafe et à côté un verre. Parce que leur cerveau a analysé, il y a deux objets, ils sont l'un devant l'autre, donc ils ne se touchent pas, alors on va les distinguer. Et elle dit, dès qu'on fait intervenir l'analyse, on dessine plus. On produit une illustration d'une pensée. Et ce que je fais quand j'écris, c'est que je ne pense pas. Donc je regardais, en fait, ce que je faisais, c'est que je regardais beaucoup, beaucoup d'images de Oum Kalsoum et je l'écoutais et je me disais, ne pense pas qu'elle chante, ne pense pas que c'est un être humain, ne pense à rien, qu'est-ce qui vient? Et là venaient des mots couteau, lac, plomb, sang, terre, cave, sous-sol, centre de la terre. Alors si c'est les mots qui viennent, bah, on va les utiliser pour faire la phrase. C'est aussi simple que ça en fait. Il faut chanter la comprenette. C'est ça le secret.
Dans Qui se ressemble, il y a plusieurs générations, il y a plusieurs dates, les années 50, les années 60, les années 70. À quel moment vous avez écrit, vous, ce livre, Agnès de Sarthe ?
J'ai commencé à l'écrire en décembre 2024.
Et ça se termine avec une date ?
Oui.
Le 7 octobre ?
Oui. Alors ça se termine avec deux dates d'une certaine manière, parce que la petite fille que je suis s'endort le 6 octobre 1973, et je lui dis, et quand tu te réveilleras, ce sera le 7 octobre.
Et 2023.
Alors, je le dis pas. C'est pas écrit 2023.
Pourquoi vous le dites pas?
Parce que je trouvais ça important qu'on puisse mettre un certain temps à faire le rapprochement et que pour certaines personnes, ce rapprochement n'ait pas lieu. Et d'ailleurs, j'ai reçu un témoignage d'un premier lecteur qui m'a écrit un mail. Je suis en pleurs, je viens de comprendre la dernière phrase. Et je me dis, bon, ben, il ne faut pas asséner les choses. C'est une façon de les voir aussi. Donc, c'est une vision que je propose, mais que je ne peux certainement pas imposer, dans la mesure où ce texte, il a été écrit. Voilà, c'est très bien. C'est le texte qui a écrit, ce n'est pas moi, c'est vrai. Le texte a écrit après un an de silence, d'une épaisseur, d'une lourdeur que j'avais jamais connue. C'est-à-dire que pendant plus d'un an, après le 7 octobre 2023, je ne pouvais pas parler de ce qui s'était passé et je ne pouvais même pas m'en parler à moi-même dans ma tête. Cette zone-là était sans mots. Et je crois qu'elle était sans mots parce que, comme c'est arrivé déjà, ce qui m'avait peut-être le plus stupéfié, donc pétrifié, c'était que un massacre ait lieu, ça arrive tout le temps, mais qu'il soit suivi le lendemain, dès le lendemain, avant même la riposte d'Israël, par des cris de joie. Et ça, Ça avait été des cris de joie qui ont été rendus publics. Hein. C'est pas moi qui les ai inventés. Hein. C'est très documenté. Il y a des tas d'universités ou des grands professeurs, des gens très bien. On dit « Ah, enfin, magnifique, quel geste !» C'est ça qui m'a pétrifiée. La manifestation de la joie après la cruauté, je ne l'avais jamais vue à ce point-là. Et ça, c'était quelque chose... Donc, ça m'a rendue complètement muette. Donc, je ne pouvais pas en parler. Et puis, de toute façon, pendant cette année, c'est vrai que c'était un sujet très compliqué parce que dès qu'on l'abordait, tout le monde avait un avis sur la question, même des gens qui ne sont jamais allés dans cette partie du monde, qui ne parlent pas ces langues, qui ne connaissent rien, tout ça. C'était trop passionnel, trop passionné. Et moi, je ne voulais pas être dans des discours passionnels. Mais donc, je ne pouvais pas... Je ne pouvais rien en dire et je ne pensais pas du tout l'écrire. Hein. Je n'avais absolument jamais le projet d'écrire là-dessus. Ça s'est manifesté parce que, justement, grâce à la musique. Parce que c'était une commande, c'est-à-dire que on m'a dit... Choisissez une musique et ça générera un récit. Et je n'ai pas choisi cette musique. J'ai dit au téléphone à Maëlys de la Jugy, qui était mon interlocutrice, mon éditrice, je lui dis « C'est bon, j'ai trouvé la musique. » Elle m'a dit « C'est quoi ?» Mais moi, consciente, j'étais incapable de lui dire, je ne savais pas, je ne sais pas ce qui m'a pris de lui dire « C'est bon, j'ai trouvé la musique. » Et là, de ma bouche est sorti, mais je l'avais pas prévu une seconde avant, j'ai dit « Enta Umri de Oum Kalsoum ». Mais je n'avais pas écouté cette chanson depuis je ne sais pas combien d'années. C'est l'inconscient qui a parlé. Mais après que je l'ai dit, ça m'a un peu surprise, mais je ne comprenais pas du tout pourquoi j'avais dit ça. Sauf que dès que je me suis mise à rédiger ce qu'elle m'avait demandé, c'est-à-dire une petite bafouille, une petite note d'intention pour raconter de quoi ça parlait, j'ai été catapultée, mais vraiment comme dans les films de science-fiction. J'ai été catapultée. Le jour du 6 octobre 1973, j'étais là, dans le salon, dans la salle à manger, chez mon oncle, le jour de Kippour, j'avais 7 ans et demi, et je lui ai dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fabriques à 7 ans et demi, le jour de Kippour, 73 ?» Et je me suis dit...
Le jour de la guerre?
Ouais, bah, le jour de la guerre de Kippour. Et je me suis dit « Oh zut! Oh non, je vais devoir écrire là-dessus, quelle horreur !» Et c'est devenu, ce livre, il s'appelait « Quelle horreur !» Pendant toute l'année où je l'ai écrite, quand les gens me rencontraient, ils me disaient « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Je dis « J'écris un livre. Oh, c'est horrible. Je veux pas l'écrire. C'est tellement dur. J'y arriverai jamais. » C'est ça que je disais sur ce livre. J'ai visité cette petite fille qui ne comprend rien à la guerre parce qu'elle a 7 ans et demi, parce qu'elle l'entend, c'est la guerre. Elle dit « Oh là là, c'est les Allemands, les nazis !» Et on lui dit « Ah non, c'est pas du tout les nazis, non. La guerre de Kippour, c'est pas les nazis. » Je dis « Mais non, c'est les Arabes. » Et moi, enfant, je me dis « Comment ça les Arabes? Mais c'est nous les Arabes. » Ce jour-là, ce jour de Kippour, dans la salle à manger, tout le monde parlait arabe. Donc si on parle arabe, c'est qu'on est arabe. Et donc cette incompréhension m'a permis d'ouvrir une sorte de boîte possible dans mon cerveau où je me disais, bon, on va commencer par dire qu'on n'y comprend rien. Ça va être ça le point de départ.
Extrait de « Qui se ressemble » d'Agnès de Sarthe. 6 octobre 1973, Paris, France. C'est toujours le soir de Kippour. Nous sommes chez mon oncle et ma tante et voilà que j'arrive au beau milieu de la consternation. Quand je dis j'arrive, je parle de moi aujourd'hui, de la personne qui est devenue la petite fille aux boucles autrefois blondes. La pauvre, elle ne comprend rien. L'agitation ne fait que croître autour d'elle. Vont-ils tous mourir? Qui sont ces Arabes qui attaquent la terre promise? Israël, elle n'y est jamais allée, mais elle en a entendu parler. C'est là-bas, dans ce pays, que la guerre a éclaté. Mais elle sent bien que pour sa famille, c'est comme si c'était à eux que ça arrivait. Pourquoi des Arabes attaquent-ils d'autres Arabes? Si les soldats trouvaient sa grand-mère, ils verraient bien qu'elle est comme eux, qu'elle parle la même langue.
C'est aussi une façon de dédramatiser le discours pour pouvoir l'entendre. Parce que c'est tout ça, je parle de choses inaudibles. Si on peut parler à un enfant, alors on peut peut-être espérer parler à tout le monde.
Mais c'est extrêmement casse-gueule d'écrire avec la voix d'un enfant. On peut tomber dans un trait trop épais, justement, pour faire enfance. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr, je comprends, mais là aussi, j'ai un petit peu de bouteille, j'ai écrit plus de 40 livres pour enfants, où c'est des enfants qui prennent la parole, et parfois ils ont 3 ans. C'est vrai que cette petite fille que je mets en scène, je me demande d'abord si ses chaussures la serrent pas un peu trop. Si cette passion qu'elle a de se mettre les doigts dans son nez, c'est peut-être pas lié aussi à des moments où elle se sent pas très à l'aise. Je regarde la petite fille comme je disais tout à l'heure, qui, à mon avis, il faut regarder les objets qu'on décrit, c'est-à-dire sans penser à son âge, mais en revoyant ses gestes, ses attitudes, son corps, qu'est-ce qu'elle fait avec ses yeux. Mais ça, c'est le résultat d'un pacte très tôt scellé avec moi-même, où enfant, je regarde les adultes, et je dois avoir cet âge-là à peu près, l'âge de la petite fille dans le livre, 7-8 ans, et je me dis, oh la vache, qu'est-ce qu'ils ont pris, quoi, c'est horrible. Je les trouve faux, je trouve que leurs voix sont très bizarres, je trouve que leur façon de s'asseoir est vraiment horrible, de se lever, horrible aussi. En fait, je sais pas, mais que c'est parce que souvent ils ont mal au dos. Je le sais maintenant que moi-même, je ne m'assois pas hyper, voilà. Mais j'essaye toujours quand même de pouvoir m'asseoir par terre, de me relever vite et tout. Et donc je me dis, oh, et puis ils comprennent rien, ils comprennent vraiment rien à la pâte à modeler. Je sais pas, c'est dingue, ça les intéresse pas, mais ils sont nuls. Alors que la pâte à modeler, c'est tellement important. Et donc à ce moment-là, à cet âge-là, je me dis, je ne deviendrai jamais comme ça. Ça, être comme ça, jamais. Alors bien sûr, je fais semblant de faire tous les trucs que font les adultes, mais je fais semblant.
C'est depuis que je suis enfant que j'aiguise mon plan. En plaisantant, je disais quand je serai grand, je le suis maintenant. Le présent, je dois le vivre. Ça fait longtemps que je crie, mais le plus important, c'est quand je chante. Maintenant, j'écris. Le puzzle s'assemble, pièce manquante.
J'ai cherché tout autour du monde, j'ai fait tous les mauvais endroits, eux qui ne flattaient que mon nom. Quand le soleil était en moi, j'ai cherché tout autour du monde, j'ai fait tous les mauvais endroits, eux qui ne flattaient que mon nom. Quand le soleil était en moi,
depuis que mes chaînes brillent comme le ciel, je vois mes échecs signés sur le chèque. La vie devient sexy, baby chèque comme ça.
Agnès de Sartre vient de publier un roman qui s'intitule « Qui se ressemble ». Johnny Hallyday y fait une courte apparition, mais la voix qu'elle a choisie pour Totemic est celle de Jacques Dutronc. Pas une chanson de Dutronc. Des histoires qu'il a écrites et jouées pour les enfants. Un livre-disque où on peut écouter « Le sceptre » et « La voiture du clair de lune », dont voici le début.
Depuis fort longtemps, les gens ont déserté les forêts.
Quelle voix!
Ils préfèrent les villes, les
gens. C'est incroyable.
Ils ne fréquentent plus les forêts que le temps d'un papier gras, les gens.
Les gens.
Et pourtant, il s'en passe des choses dans les forêts. Par exemple, écoutez ce pivert. Ce pivert qui frappe l'écorce d'un arbre pour en faire sortir les insectes qui... Il y a un moment que je ne suis sûrement pas revenu dans une forêt, mais ce pivert n'est qu'un bûcheron. Ouf!
Ah bien, cet arbre s'est bien défendu, ça, ouais, ça, il faut le dire. Hein. Il s'est bien défendu, mais je l'ai eu. L'arbre qui résistera à l'âge de Léonard, le buisson n'est pas encore poussé.
Des racines jusqu'à la cime, l'énorme tronc est plein de frissons. Et il s'incline
et il décline, et Léonard le bûcheron se passe la main sur le front. Puis il s'approche d'une pichenette, culbute le tronc dans les pâquerettes.
Ça c'est pareil, hein. Dernière écoute, 9 ans. Et c'est incroyable parce que je me souvenais pas du tout que le bûcheron s'appelait Léonard. Et en fait, mon fils aîné s'appelle Léonard, et je me dis que c'est peut-être... C'est peut-être à cause de Léonard le bûcheron, finalement. Parce que c'était vraiment quelque chose qui était... Que je sais pas, ce disque, je l'ai écouté des milliers de fois. Y a un peu tout dans ce disque, pour moi. C'est-à-dire qu'il y a la musique, la voix, l'inventivité, pas prendre les enfants pour des cons. Et je n'ai cessé, toute ma vie, d'aller puiser... De temps en temps, je vais prendre un petit truc dans mon réservoir. Qui, en fait, ce réservoir, ça m'a servi... pour un nombre de livres, mais que ce soit des livres pour enfants ou pour adultes, parfois c'est un mot, parfois c'est une intonation ou la trajectoire de l'histoire. Et c'est vrai que une des choses que je préfère faire dans mon métier maintenant, c'est les albums musicaux. Et donc j'écris des histoires. Mon fils Léonard le bûcheron, mais en fait Léonard le musicien, écrit la musique. J'écris les paroles, on les enregistre. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je refabrique le sceptre et la voiture du clair de lune. C'est ça que j'essaye de faire.
Vous pensez au lecteur quand vous écrivez?
Oui et non. J'y pense de temps en temps. Alors, j'y pense de manière positive. J'imagine un lecteur et par exemple, je prends quelqu'un de mon entourage dont je sais qu'il aime bien certaines conneries que je dis et je me dis, ah, ça va le faire marrer. Et là, ça m'aide à avancer. Mais sinon, si je me mets à penser au lecteur abstraitement, c'est-à-dire quelqu'un que je ne connais pas, qui ne me connaît pas et qui lit les livres, c'est complètement inhibant. Donc non, j'y pense pas. Mais je sais que j'écris pour être lu. Je sais que ça va être lu. Il y avait une amie qui m'avait demandé un jour, mais qu'est-ce qu'on fait quand on écrit? C'est une question un peu assez vaste. Et j'ai pris ça très au sérieux. J'ai dit, ben voilà, imagine... Tu as une bague que tu adores. C'est vraiment une bague qui va parfaitement à ton doigt. Elle est très belle, et non seulement elle est très belle, mais elle t'a été léguée par ta mère, et c'est ta grand-mère qui l'avait donnée à ta mère, etc., depuis des générations. Et bien, ce que tu fais, c'est que tu prends cette bague, tu l'enlèves de ton doigt, et tu la jettes le plus fort possible à la mer. Et tu sais pas si quelqu'un va la ramasser. Mais dans ce geste de la jeter, ben, pour moi, c'est ça, le lecteur. C'est un peu bizarre, mais c'est ça.
Mais ce qui est frappant quand même, c'est que même l'écrit, ça passe par la voix, en fait, chez vous. Même les histoires.
Oui.
Ça a rapport à l'écoute, ça, c'est lié à ça, quoi.
Et parce que je crois que je suis une personne de tradition orale. Enfin, je suis sûre même. C'est-à-dire que j'ai entendu des histoires avant de les lire, et j'en ai entendu énormément. Parce que comme ma grand-mère était analphabète... Comme beaucoup de gens qui n'écrivent pas, elle connaissait beaucoup de choses par cœur et beaucoup d'histoires, puisque faut bien passer le temps, faut bien amuser les enfants. C'est comme ça que les mots sont venus à moi, sous forme d'histoire, avec une voix comme support. Je me parle beaucoup à moi-même quand j'écris. Hein. Il faut pas me voir dans mon bureau. J'ai l'air d'une dingue. Je fais des mimes, Voilà, je hoche la tête, je fais des gestes, je vis les trucs, quoi. Parce que je crois que ça passe encore par la voix chez moi. Parce qu'en fait, lire par moi-même, je voyais pas du tout l'intérêt. Ça a été très, très pénible pour moi de me mettre à lire. C'était comme si je perdais quelque chose. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants à qui on a lu à voix haute et qui, au moment du passage, disent « Maintenant, tu peux lire tout seul. » « Ah bon ? Mais dans lire tout seul, il y a tout seul, non ?» Et ça me faisait pas du tout envie. Et c'est une fois, mais ça a demandé beaucoup d'années, que je me suis dit, mais non, c'est le contraire. Dans la lecture, on n'est jamais tout seul puisqu'on est avec l'auteur. Donc c'est le contraire de la solitude. Mais je le savais pas. Et je l'ai découvert, en fait, en cours de littérature. Là, je devais avoir 18 ans et j'étais en Cagne et j'avais une prof de français géniale, Marianne Barberis, qui a tout changé à ma vie parce que elle nous a mis du côté de l'écrivain. Elle nous a fait entrer dans l'atelier. Et quand il y a eu ce cours sur Madame Bovary, ça m'a mis la tête à l'envers, comme on dit. Je suis passée de quelqu'un qui déteste lire à quelqu'un qui veut faire ça du matin au soir et qui déteste faire le reste.
Avec Madame Bovary de Flaubert.
Mais oui, que j'avais détesté en seconde. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'était très simple. Elle nous a dit, au début de Madame Bovary, il y a Charles Bovary qui arrive dans la classe. Mais bon, surtout, il a une casquette. Et elle nous dit, voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous allez sortir une feuille, un crayon, vous allez dessiner, puisqu'il y a une description, vous allez dessiner la casquette de Charles Bovary. Moi, j'adorais dessiner. Je me suis dit, oh, génial, je vais faire la meilleure casquette et tout. Je me suis dit, là, on s'ennuie pas, là, ça va. Et puis, quand on veut dessiner à partir d'un texte, on est vraiment obligé de lire le texte et de lire tous les mots. Et là, on se rend compte que, il y a un petit moment de blanc, et elle dit, est-ce que quelqu'un parvient à le faire? Et donc, bien sûr, personne ne parvient à le faire, car cet objet n'existe pas, et que c'est une chimère, et que c'est un objet purement littéraire, vu qu'il y a à la fois trois boudins, un rabat, une visière, de la peau de lapin, enfin, c'est inouï tout ce qu'il y a, cette casquette, c'est une espèce de pièce. Cet objet n'est pas possible. Et pourtant, il est dans un livre et on ne voit pas. On fait, il a une casquette. Et elle nous dit, alors qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait? Comment c'est possible qu'on ne l'ait pas vu, puis que maintenant on le voit? Et ça a été, je me suis dit,
Ce passage avec la casquette du jeune Charles Bovary, nouvel arrivant dans sa classe de lycée, est au début du roman de Flaubert. En voici la description. C'était une de ces coiffures d'ordre composite, où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflée de baleine, elle commençait par trois boudins circulaires, puis s'alternait, séparée par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné couvert d'une broderie en soutache compliquée et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fil d'or en manière de gland. Elle était neuve, la visière brillait.
C'est pas pour se moquer de lui, c'est pour qu'on ressente ce que c'est qu'être ridicule et humilié. Et ben ça, c'est comme si on portait cette horrible casquette. Et c'est très économique, c'est fait en 10 lignes, même pas 7 lignes. Donc il y a eu cette révélation-là, et il y a eu une autre révélation qui était que, et d'ailleurs c'était lié aussi à ce cours, elle avait posé cette question d'où écrit-on, que c'était important de se poser la question de où, depuis où l'écrivain écrit-il. Et moi ça m'avait terrorisée parce que je voulais devenir écrivain, et je me disais, mais moi j'ai pas de terroir, comment je vais faire? Je suis pas un écrivain russe, je suis pas un écrivain français, vu que la France j'y comprends rien. Je suis pas un écrivain moyen-oriental, je vais pas pouvoir le faire.
Oui, quand vous dites j'avais pas de terroir, c'est parce que votre grand-mère paternelle était libyenne. Ensuite, elle a vécu en Algérie avec la guerre d'indépendance. Ils sont arrivés à Paris. Ça, c'est du côté paternel, du côté maternel, juif, russe. Enfin, ça n'a pas cessé de bouger.
Il n'y avait aucune stabilité et il y avait toujours l'idée que même s'il y en avait une, faudrait être prêt à décaniller assez rapidement. Donc le lieu, c'est une question extrêmement. Qui a de quoi tourmenter un juif, oui. Ça, la question du lieu, c'est pas rien.
On termine en chanson.
Ouais.
C'est le tube que vous avez choisi.
Ah oui. Ouais, là, je reconnais l'intro. 50 ways to leave your lover.
Chanson publiée par Paul Simon en 1975 et qu'il a interprétée avec Art Garfunkel dans un concert devenu mythique à Central Park en 81. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover.
Simon et Garfunkel, c'était très important pour moi. Et je les ai choisis eux parce que c'était une expérience de honte terrible. Et j'aime bien les expériences de honte. C'est que moi, quand j'étais ado, j'aimais surtout la musique classique. Je voyais tous mes copains, ils aimaient les Doors, ils aimaient les Sex Pistols, ils aimaient... Puis à un moment, je me suis dit, ben, faut bien que j'aime une autre musique. Puis j'ai écouté Simon & Garfunkel, je me suis dit, oh, ben ça, c'est pas de la musique classique et c'est super. Et donc, j'ai dit, ben moi, j'aime bien Simon & Garfunkel. Et j'ai été tellement music-shamée, comme on dit maintenant. J'avais vraiment l'air de... C'est cette vieille hippie de 12 ans et demi, qu'est-ce qui nous fait chier. Et je trouve cette chanson absolument réjouissante. Et je l'ai relue, j'ai relu les paroles récemment. Elle est tellement bien écrite, elle est tellement drôle.
Alors, moi, c'est une chanson que je connais, mais je me suis jamais intéressée aux paroles. Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson?
Alors, le refrain, c'est que des expressions toutes faites. C'est comme, oui, à plus tard, dans le car, par exemple. C'est que ça.
La classe à Dallas.
Voilà, exactement. Donc, le refrain, c'est que ça. Mais en fait, les couplets, qui sont très, très jolis, c'est une conversation entre un garçon et une fille. Et elle dit, je sais pas comment me sortir de cette histoire. Et l'autre lui dit, oh si, je pense que tu peux t'en sortir, il doit bien y avoir un moyen. Mais c'est un anglais hyper, il se parle de manière hyper respectueuse. Il dirait, j'espère que tu ne le prendras pas mal, mais je tiens à te dire que tout ça est un anglais incroyablement châtié. Et puis il passe au refrain, et là, c'est le déchaînement des petites expressions toutes faites, des petits clichés, etc. Et c'est super bien écrit. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Agnès de Sarthe, écrivain, et dans Totemic jusqu'à 10h.
On passe à votre carte blanche.
Oui.
Votre carte blanche, c'est une chanson que vous avez écrite, parce que, en plus de la littérature jeunesse, de romans pour adultes, vous écrivez aussi des chansons. Celle-ci s'intitule « Ma fiancée collapsologue ». Mmh. Alors, je me suis permise de mettre un passage entre crochets, de là à là.
D'accord.
Si vous êtes OK.
Alors. Mon âme en dit, tu ne penses qu'à ça? Je lui réponds, c'est pour demain. Pour demain quoi? Qu'on se marie? L'apocalypse, bel abruti. Il comprend rien et il s'en fout. Il me fait des bisous dans le cou. Ma fiancée collapsologue, voilà comment il me surnomme. Ma fiancée désespérée. C'est comme ça qu'il m'appelle, mon homme. Lui-même, il a été marié, bien avant que je le connaisse. Il s'agit d'un homme recyclé qui s'offre une seconde jeunesse. Moi, par économie, j'adopte les enfants portés par son ex. Elle est d'accord, et ce d'autant qu'elle envisage de changer de sexe. De maman, ce serait redondant et contraire à l'écologie. Faire des enfants alors qu'il y en a, c'est se moquer de l'économie. Moi, je réfléchis à tout ça, du soir au matin, même la nuit. Mon amant, lui, n'en revient pas. Tu voudrais pas venir au lit? Les papouilles, c'est zéro déchet. L'amour, ça se donne, ça se dit, ça se fait. Ma fiancée collapsologue, voilà comment mon homme m'appelle. Mon amoureuse désespérée, ma louve, mon panda, mon abeille. Ne crains rien, ma collapsologue, toi, mon amante désespérée. Luttons ensemble de conserves et mettons vite à mariner les légumes pour faire des conserves et pour nos enfants des purées. Nos futurs enfants, car j'y crois. Nos futurs enfants, car il faut. Nos futurs enfants, car je t'aime. Nos futurs enfants, si tu m'aimes. Nos futurs enfants, car elles tournent et qu'avec eux, nous tournerons page après page le grand album des lendemains fort incertains. Chantons les lendemains qui déchantent. Ménestrel de la décroissance, chantons le futur sans lendemain, troubadour de la dernière chance.
Je me disais, c'est bon mon homme, on le dit plus ça.
Chez moi, on le dit en Normandie. Ouais, vous pouvez venir, vous verrez, mon homme, on en a plein.
Ok.
Voilà. Et donc, on a écrit cette chanson, ma fiancée collapsologue, parce que tout le monde dit, voilà, les jeunes, les enfants, on les accueille en disant, au fait, c'est la fin du monde, t'es au courant, parce que là, on n'a plus, ça va vraiment être foireux. Et donc, je me dis, les gens qui sont amoureux et puis qui veulent faire des enfants, on leur dit, non, c'est déjà assez pollué comme ça. Et donc, on en a fait une chanson rigolote. Qui dit aussi que si tous les gens bien s'arrêtent de faire des enfants, il n'y aura que les gens cons qui en feront. Alors là, le monde, il sera encore pire. Non seulement ce sera la fin, mais elle sera nulle.
Et vous réussissez à en rire?
Ah ben moi, je ris de tout. Hein. C'est mon grand principe. Tout le monde n'apprécie pas, mais c'est comme une... C'est marrant parce que je prends ça très au sérieux. C'est-à-dire que je dis souvent qu'il y a un artisanat de l'art, et je trouve que pour être écrivain, il y a un savoir-faire. Et bien, dans ce savoir-faire, pour moi, il y a l'humour. Et alors, on pourrait dire, oh là là, mais tu dis ça, mais tous les grands auteurs, hein, c'est pas drôle. Hein. Ben moi, je sais pas, j'ai l'impression que tous les grands auteurs que j'aime, ils sont drôles. Proust, Tordant, Virginia Woolf, Mourir de rire, Faulkner, incroyable. Ils sont tous drôles, en fait. Mais ça se fait pas de le dire.
Merci beaucoup, Agnès de Sarthe.
Merci, Rebecca Manzoni.
J'ai oublié de vous prendre en photo. C'est une photo...
Qu'on met sur le site?
Oui.
Oui, bien sûr.
Oui,
prendre une photo de moi toute seule, pas en toutes les deux.
On peut la prendre toutes les deux, si vous voulez.
Mais moi, j'aimerais bien.
Alors, on fait ça.
On n'a qu'à se faire un selfie. Alors, mettez-vous plus devant.
Pourquoi?
Parce que j'ai une très grande tête. Et donc, si vous mettez derrière, vous aurez l'air d'avoir une toute petite tête.
Ah, ok.
Ouais. Oui, j'ai toujours peur que les gens qui se prennent en photo à côté de moi et disent après, mais comment ça se fait que j'ai été capturée par les Givaro? Ça fait ça parfois, c'est très bizarre.
Alors, je vous montre?
Ben, je sais pas. Non, je préfère ne pas voir les photos. Ça me met pas super à l'aise.
Merci beaucoup, Agnès de Sarthe.
Merci, Rebecca Manzoni.
Qui se ressemble, nouveau roman d'Agnès de Sarthe est publié par les éditions Buchet-Chastel. Je vous recommande aussi l'écoute, avec vos enfants, d'un de ses merveilleux livres-disques. Il y a par exemple Cœur de pierre, texte d'Agnès de Sarthe, musique de Léonard de Sarthe, dessin de Marc Boutavant, avec la voix de Michel Esco. Agnès de Sarthe sera à Grenoble pour une rencontre à la librairie Le Square le 5 février, au Parlais de la Porte Dorée à Paris le 11, à la librairie Parole à Saint-Mandé le 25 mars et au Bateau Livre à Lille le 26 mars. Stéphane Le Guenec réalise Totémique et c'était avec Clément Berman ce matin, mais Perrine Malinge qu'au programme nos invités, Ilinka Negulesco assure les trouvailles de son et de documentation et JB Audibert programme nos disques. La semaine prochaine, rendez-vous avec le comédien Bastien Bouillon au café d'abord et dans sa cuisine ensuite.